En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Omar Youssef Souleyman est un nom que les services secrets syriens ont recherché. Aujourd'hui, Omar Youssef Souleyman est un nom de journaliste qu'on peut lire dans la presse française. Son chemin de Damas à lui, c'est d'être passé par l'Arabie Saoudite, la Syrie révolutionnaire, mais surtout par l'orgasme poétique. Sexualité et poésie en terre d'islam auront été les deux mots boucliers de celui qui souhaitait devenir djihadiste. C'est donc l'histoire du petit terroriste qui publie chez Flammarion.
La rue de Paradis. En automne, le bord des feuilles entaille mon cœur. Un seul arbre fleurit dans l'absence, irrigué par les murmures de ma mère.
F.
في الخريف حواف أوراق الشجر تحز قلبي. شجرة وحيدة تزهر في الغياب. شجرة سقتها دمدمة أمي.
F comme fragment d'un discours apatride.
Bonjour Omar Youssef Souleyman.
Bonjour Yasmine.
Alors avant la poésie, avant la découverte du corps et de la sensualité, il y a eu le monde tel que le souhaitaient pour vous, vos parents en Syrie. De quoi était fait ce monde ?
C'était un monde vraiment compliqué. C'est pas facile qu'on vit en Syrie dans une famille salafiste. C'était un monde intéressé par rapport à la littérature arabe, intéressé beaucoup par rapport à la religion. Nous devions aller à la mosquée chaque jour pour faire la prière. C'était un monde qui vit sous une dictature, un régime fasciste. Nous n'avions aucun droit de parler, d'exprimer notre même nos rêves, si vous voulez.
Alors on va s'arrêter sur le mot salafiste. Vous dites mes parents étaient salafistes, ce qui est une condition normale, on va dire, dans un pays comme la Syrie. Mais qu'est-ce que l'on entend par ce mot ? Il y a plusieurs tendances, plusieurs sensibilités autour du mot salafiste. Il y a la tendance quiétiste, politique et djihadiste.
C'est vrai, c'est un peu compliqué. D'abord, en Syrie, ça dépend la région où on vit. C'est-à-dire, à Damas, c'est pas très normal qu'on trouve une famille salafiste. Mais dans les petites villes autour de Damas où j'ai grandi, il y avait beaucoup de familles comme ça.
Mais comment vous définiriez le salafisme de vos parents ?
D'abord, ces mots que vous avez indiqués, c'est le djihad, le terrorisme, etc. Tout ça, moi, je ne fais pas la séparation entre les deux, parce que le salafisme inclut tous ces mots. Ça ne veut dire pas que les salafistes ne sont intéressés qu'au dans le djihad. Non, il y a d'autres choses. Par exemple, mes parents ont continué leur étude. Ils sont dentistes, tous les deux. Ils aiment beaucoup voyager. Ils étaient intéressés par rapport à la littérature arabe et à la fois, ils sont intéressés par rapport au djihad. Donc, le cliché qu'on pense en français, c'est pas tout à fait vrai.
Alors, il se trouve que votre famille va rejoindre l'Arabie Saoudite pour retrouver votre mère, en fait, qui a tenté de quitter votre père. Et l'Arabie Saoudite, vous vous dites à ce moment-là, vous, que ça va être le paradis, puisque c'est la terre d'islam par excellence.
C'est vrai.
Or, le petit Syrien que vous êtes va être accueilli comment là-bas ?
Comment j'étais accueilli, c'était dur, car j'avais une autre couleur, j'avais un autre accent. J'étais très étranger, j'étais tellement isolé dans l'école, comme j'étais un adolescent parmi des ados qui ont presque jamais vu un visage de quelqu'un syrien, donc ils se moquaient de moi, etc.
Ils vous traitaient de PD dans la cour de récré.
Exactement, c'était aussi le cliché. Pourquoi, en fait, je ne sais pas. Pourquoi il appelait le Syrien PD, il appelle l'Égyptien voleur, il appelle le Soudanais un esclave. Donc c'était une société raciste.
Quelles sont les matières que vous étudiez donc à l'école où votre père vous inscrit, à Riyad ?
Il y avait la religion, et la religion, et la religion.
Avec, pour donner le ton quand même, une campagne dont vous vous souvenez, vous êtes môme, vous êtes dans cette école à Riyad, en Arabie Saoudite, et il y a une campagne intitulée « Verse un rial pour tuer un juif ».
Oui,
vous vous souvenez ?
Oui, c'était à l'époque de l'intifada en Palestine, en 2000-2001. Il y avait plein de bruit dans le monde arabe pour inviter les gens, pour soutenir le peuple palestinien, les enfants, les victimes en Palestine. Sauf que c'était vraiment une propagande pour ces assassins qui s'appellent Hamas ou les autres groupes islamistes en Palestine pour tuer, il ne dit pas les Israéliens, mais les Juifs. Je me souviens quand j'étais petit, c'était le mot juif, c'était une insulte. Et c'est un résultat de cette haine entre l'État israélien et tous les États arabes.
À 12 ans, j'ai demandé à Saïd, qui en avait alors 15, comment les femmes tombaient enceintes. C'est la première fois que j'entendais parler de relations sexuelles. Je n'ai pas bien compris. Quelques mois plus tard, notre voisine a rendu visite à ma mère. Comme elle avait oublié son sac, elle m'a envoyé le chercher. Chez elle flottait un parfum de femme. Le fort désir d'enlever mes vêtements monta en moi. Ce que j'ai fait. J'ai mis un oreiller moelleux entre mes jambes en imaginant que je couchais avec une femme, comme Saïd me l'avait dit. La chaleur de mon corps a augmenté, je me suis mis à transpirer, à haleter jusqu'à l'orgasme. J'ai eu alors peur d'être surpris, malgré la maison vide et silencieuse. Je me suis essuyé et j'ai remis l'oreiller en place en prenant soin de le retourner. Tremblant de tous mes membres, aussi coupable que si j'avais commis un crime, je me suis rhabillé avec en moi un mélange de désir et d'extrême confusion. Mais j'ai recommencé plusieurs fois par jour, avec plusieurs oreillers.
Extrait en sol majeur sur RFI de votre livre Le Petit Terroriste, Omar Youssef Souleyman. Donc un musulman qui découvre l'orgasme à 12 ans dans certains pays, c'est une page de littérature. Il se trouve qu'en Arabie Saoudite, c'est un drame. Il faut rappeler que le pays est gouverné par le comité de la promotion de la vertu et la prévention du vice. Donc vous avez une liste d'interdits.
Exactement. D'abord, nous avons tous des histoires secrètes, on peut dire, ou intimes. Donc c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre, Le Petit Terroriste. La question, ce n'est pas ce que c'était interdit, mais je pense qu'est-ce que ce n'était pas interdit. Par exemple, le regard à une femme, penser la vie sexuelle, penser la laïcité, la démocratie, tout ça, c'était des mots des infidèles, des mots des ennemis. Parce qu'il y avait toujours cette idée de complot. Parce que il y a les imams, ils ont une idée dangereuse que tout le monde, dans le monde entier, il est jaloux de nous. Mais pourquoi? Et on ne savait pas.
Dans cette vie secrète, il faut imaginer que vous, petit garçon, à part le visage de votre mère, vous ne voyez aucun visage de femme. Et c'est le lot de tous les petits garçons en Arabie Saoudite. Et ça provoque évidemment des choses. C'est-à-dire que vous racontez que dans les toilettes de l'école, à certains moments de la journée, les garçons se retrouvent pour quoi faire?
Parce que c'est pas normal la situation sexuelle. Vous pouvez imaginer, pour les adolescents, c'est pour ça qu'ils masturbent dans les toilettes, par exemple.
Il y a des séances de masturbation dans les toilettes, en cachette, dans une ville comme Riyad, en Arabie Saoudite, dans une école religieuse.
C'est une tradition dans les écoles en Arabie Saoudite en général. Alors, on peut dire, en fait, en Arabie Saoudite, le régime, il le présente pour l'occidental comme un pays de la paix et un pays de la religion. Et il y a la vraie vie. Où il y a plein de drogues, il y a plein de violences, plein de racisme.
C'est la ville du Captagon, c'est la drogue préférée du pays.
Ah oui, c'est vrai. Et le Captagon, c'était connu dans l'école où j'étais quand même.
Vous faites un terrible portrait de Riyad, en tout cas, que vous présentez aussi comme la ville des enlèvements.
Exactement, parce que chaque jour, presque, il y avait cette histoire. Une histoire de soit enlèvement d'une femme ou un enfant. Et c'était toujours la violence sexuelle.
Alors on sent à la lecture du Petit Terroriste que votre âme cherche une réponse entre d'un côté une sensibilité politique et de l'autre côté ce que recommande l'islam. Mais la tentation de vous radicaliser est grande, surtout après l'idéologie du 11 septembre diffusée par Ben Laden.
C'est un message de Oussama pour Obama. Je voudrais vous dire que l'avion du héros Omar al-Farouk réaffirme l'engagement des héros du 11 septembre 2001. L'Amérique ne peut pas rêver de vivre en paix, à moins que la Palestine puisse aussi en profiter. Il est injuste que vous puissiez vivre dans la sécurité alors que nos frères de Gaza souffrent énormément. Par conséquent, avec l'aide de Dieu, nos attaques sur l'Amérique vont continuer tant que vous soutiendrez Israël.
On est sur RFI et en 2001, derrière peut-être un poste de télé saoudien avec vous, Omar Youssef Souleyman. À ce moment-là, en 2001, une grande partie du monde musulman se réjouit de ces attentats de New York. Et vous ?
Je cherchais quelque chose qui me protège de cette violence autour de moi. Et Osama Bin Laden, il était l'héros qui va me sauver de cette situation dure.
Qui va vous sauver de... Alors c'est quoi la situation dure ? Parce que là, ce que vous décriviez de Riyad, c'est une vie d'entrave. Alors vous imaginiez que Osama Bin Laden allait vous sauver de cette emprise
Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de loi qui protège les étrangers là-bas. Je n'étais pas un être humain comme tous les étrangers en Arabie Saoudite. On était comme des animaux, c'est-à-dire si quelqu'un nous viole, même mes parents, parfois le propriétaire, il a le droit de garder leur passeport et le fait travailler comme des esclaves.
Le propriétaire de la maison ?
Non, le propriétaire, le chef de travail. J'ai vécu dans la peur des autres. Et comme un adolescent, j'ai cherché quelque chose qui me protège. J'ai trouvé que Osama Bin Laden, c'est pas la personne de Osama Bin Laden, mais l'idéologie de l'Al-Qaïda ou l'islam ou l'extrémisme, on peut dire. Parce que je voudrais faire le djihad, apporter un Kalachnikov comme un gamin qui cherche, le protège finalement. N'importe comment, et aussi il y avait l'action. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand ma mère, on mangeait pas bien quand on était ado, elle nous disait tout le temps, mangez bien afin que vous soyez des héros comme Cheikh Osama Bin Laden. Donc c'était la mère qui disait ça. Le père, mon père, il avait un grand rêve d'aller en Afghanistan pour faire le djihad. Les camarades de l'école, les profs, etc. Et je voudrais dire, en fait, tous les adolescents dans le monde arabe pour être un Osama Bin Laden.
C'est parce pour que ça tous qu'il cherchent un héros
exactement.
Auquel s'identifier.
Et comme il n'y a pas d'héros dans le monde arabe jusqu'à aujourd'hui, comme Cheikh Osama Bin Laden ou comme les djihadistes, surtout dans les combats ou dans les milieux fermés ou dans les sociétés comme Arabie Saoudite, donc chaque adolescent peut être un Osama Bin Laden. C'est ça le danger.
À ce moment-là de votre vie, vous êtes persuadé que les sunnites détiennent la vérité.
Bien sûr, parce qu'en Arabie Saoudite, on est... C'est une société sunnite fermée, radicale, contre les chiites. Les chiites en Iran aussi, ils pensent qu'ils ont la vérité. Et dans l'école, ils nous disaient tout le temps, c'était les chiites, ils étaient ils sont des infidèles, ils sont plus dangereux, les juifs et les chrétiens ou les infidèles, les gens qui ne sont pas musulmans, parce qu'ils bombardent l'islam, ils attaquent l'islam de l'intérieur de lui.
Alors vous allez faire le pèlerinage à la Mecque, c'est la consécration, si j'ose dire, de cette vie de musulmans, de vrais musulmans. Mais la Mecque ne va pas être le lieu de la rencontre véritablement avec la foi, comme vous le rêviez.
C'est vrai.
D'abord, vous n'êtes pas du tout sensible au pouvoir de l'urine de dromadaire qui se vend là-bas pour des vertus soi-disant médicales. Et puis vous avez le malheur de croiser une belle jeune fille syrienne. Le doute s'installe véritablement à quel moment dans votre tête ?
Pas à pas, entre Riyad et l'Arabie Saoudite. D'abord, par rapport au sentiment, car je ne sentais pas que je vais rencontrer Allah à la Mecque. Et à la fois, je sentais tout le temps que je suis coupable, car je n'arrivais pas d'arrêter de regarder à cette fille. Car les femmes qui voulaient faire le pèlerinage, elles n'ont pas le droit de couvrir leur visage. Et je sentais que je suis vraiment très proche au diable, plus qu'Allah. Et Allah ne m'a pas sauvé. Après, ces doutes ont augmenté beaucoup quand on est arrivé à la Mecque, quand on est tourné autour d'Al-Kaaba, par exemple, le grand bâtiment où les musulmans tournent, ou même dans Arafat, c'est la montagne où tous les musulmans montent pour être très proches à Allah, comme Mohammed dit. Et moi, je ne sentais aucune foi.
Mais vous allez plus loin parce que vous commencez à vous dire quelque chose qui mérite développement. Vous vous dites que l'islam est une mafia. Comment cette idée vous traverse l'esprit ? À quoi vous faites référence quand vous dites ça ?
J'ai dit cette phrase d'abord à la fin du livre. Quand je dis ça, parce que l'islam, il était créé pour faire un problème entre les gens. Regardez toute l'histoire, depuis Mohammed jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le monde arabe a vécu une seule époque de la paix ? Jamais. Il y avait toujours les guerres. Donc moi, je me demande aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de l'islam ? Qu'est-ce qu'il a ajouté à ce monde ? En fait, cette phrase, précisément, je l'ai écrite parce qu'on peut entrer dans l'islam, c'est très facile. Vous, par exemple, Yasmine, pour entrer dans l'islam, ça suffit que vous dites il n'y a aucun dieu que Allah et Mohammed sont passagers, et vous prenez une douche, et ça y est, vous êtes musulmane. Donc, et alors, et pour sortir, si vous sortez demain de l'islam, il faut vous tuer. Donc, c'est ça le mafia.
Les fantômes d'Allah, ils ont fait de nos veines des cordes de potence et vendu l'ombre des palmiers contre un puits de pétrole. Comme un cheval qui se débat dans le vide, l'orphelin se fond dans le cri du vent.
أشباح الله جعلوا من شراييننا حبال مشانق وباعوا ظل النخيل ببئر بترول كحصان يصارع في الفراغ يعانق البطل صرخة في الريح.
Omar Youssef Souleymane, toujours très en sol majeur, donc vous êtes de plus en plus poète, beaucoup plus poète en tout cas que musulman, mais je vais vous rappeler ce que disait le prophète. Quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ? Donc ce qui est fou, c'est que vous êtes aussi... Il y a cette ambivalence entre le corps et la pureté que réclame l'islam. Mais il y a aussi cet appel vers la poésie pour vous. Et la poésie et la préparation au djihad, ça ne va pas vraiment ensemble.
D'abord, la poésie, ce n'est pas quelque chose de nouvel dans ma vie. Dans la famille où j'ai grandi quand j'étais enfant, il y avait cet intérêt par rapport à la vieille poésie arabe et la littérature arabe. On était obligé de prendre la poésie par cœur, avec le Coran par cœur. Donc j'ai profité beaucoup de ça. Après, ce que vous avez dit là, ce n'est pas un hadith de Mohammed, c'est un verset coranique, parce qu'il y avait toujours ce combat entre Mohammed ou Allah et les poètes. Pourquoi ? Parce que la langue coranique, c'est une langue poétique aussi, vous voyez. Et il y avait plusieurs personnes à l'époque de Mohammed où l'on dit que tu es un poète, tu n'es pas un prophète. Pourquoi aussi ? Parce que Mohammed, il n'avait aucun miracle. Il a dit, mon seul miracle, c'est le texte coranique. Parce que je suis très très fort par rapport à la langue. Sauf que, désolé, il y avait beaucoup de poètes beaucoup plus forts que lui. C'est pour ça qu'il y avait cette jalousie, je pense. Et là, il a produit cette verset coranique.
Pourquoi est-ce que votre livre s'intitule « Le petit terroriste » ?
Car ce n'est pas un vrai terroriste. C'est un résultat de la violence autour de lui en Arabie Saoudite. Car quand j'étais petit, m'appelait tout le temps le petit Omar parmi mes proches. Et voilà, quand j'ai rencontré Allah en Arabie Saoudite, je me disais, comme je m'appelle le petit Omar, je voudrais aussi m'appeler le petit terroriste. Parce que le petit terroriste, c'est un mot qui existe dans le Coran.
Ce mot apparaît dans le Coran.
Exactement.
Le mot terroriste.
Allah a dit, voilà. Préparer ce que vous pouvez préparer, bah, c'est pas le verset exactement comme ça en français, mais c'est ça le sens, pour terroriser les ennemis d'Allah et vos ennemis.
Ce livre, vous diriez que c'est à la fois un témoignage, une déclaration d'amour poétique et aussi une dénonciation de la pensée salafiste.
C'est un récit, il n'y a pas de fiction, c'est vraiment une vraie histoire. Je l'exprimais pour dire d'où nous sommes venus. Quand je dis nous, les gens qui sont sortis de cet enfer qui s'appelle le salafisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, malheureusement, depuis quand ce livre est sorti, me disaient non, toi, t'attaques l'islam, t'attaques la religion, t'as pas peur d'être critiqué par rapport le Front National, l'extrême droite. Ben, je suis désolé, moi, j'ai peur de rien parce que j'ai perdu tout. Et ces gens-là, moi, je les appelle les casques coloniales, quand même, comme on dit aujourd'hui, certains à gauche.
Qui est-ce que vous appelez le casque colonial ?
Le casque colonial, c'est les gens qui savent tout. Vous voyez, ils savent même plus que nous, le Moyen-Orient. Ils nous montrent sur quoi on doit écrire, sur quoi on ne doit pas écrire.
Vous pensez à qui ?
Bah, certains gens de la politique en France, ou certains journalistes, ou certains écrivains, etc.
Edoui Plenel de Mediapart, par exemple ?
Je ne le connais pas. Mais même si je le connais, pas importe les noms en fait. Vous êtes intelligente, mais je ne suis pas là pour donner...
Vous n'êtes pas une balance, d'accord.
Pour parler contre les gens quand même, désolé.
En tout cas, dans votre bagage de réfugiés, il y a heureusement et toujours de la musique arabe. Est-ce que vous pourriez nous présenter Aboubakar Salem ?
C'est un très grand chanteur yéméniste, il est venu du Yémen, le pays aujourd'hui massacré par rapport à l'Arabie Saoudite. Et je pense qu'il a une très très belle voix.
سرقت النوم من داخل عيوني وخليت السهر فيها مؤبد أداسي الشوق ما تنهض جفوني ونار الصبر في قلبي توقد 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 داخل عيوني وخليت السهر فيها مؤبد
سردت النوم من داخل عيوني وخليت السهر فيها مؤبد أقراس الشوق ما تغمض جفوني
أقراس الشوق
ما تغمض جفوني ونار الصبر في قلبي توقد نار الصبر في قلبي توقد
سرقت النوم سرقت النوم
أحبيبي ينصفوني إذا بشكي لهم أو بتودد من لي من صدودك ينصفوني إذا بشكي لهم أو بتودد وأنا مرضى بحبك يعذلوني
وأنا مرضى
بحبك يعذلوني يا قضي العمر بين البين أقضي العمر بين البيت والصاد
Le père de la musique du golf sur RFI, Aboubacar Salem en sol majeur, puisque la musique est désormais essentielle hein, dans le nouveau monde de notre invité Omar Youssef Souleymane qui publie Le Petit Terroriste.
Synopsis.
Résumé en sol majeur des minutes précédentes. 1987, Omar Youssef Souleymane naît à 40 km de Damas. Ses parents sont dentistes et salafistes. C'est une famille tout ce qu'il y a de plus normal. 1999, la famille s'installe en Arabie Saoudite où le petit Syrien Omar se fait traiter de PD dans la cour de récré. Bah oui, PD puisque Syrien. L'Arabie Saoudite n'est finalement pas le paradis musulman dont rêvait Omar. Il y découvre la discrimination. Et puis Omar n'a pas un, mais deux problèmes. Il aime la poésie et il se masturbe. 11 septembre 2001, Ben Laden vient remettre de l'ordre dans la petite âme d'Omar qui rêve de faire le djihad. Ce serait ça la solution, faire le djihad pour en finir avec la peur de sentir son cœur fondre devant Mounia, la peur de se masturber plusieurs fois par jour avec un oreiller. Fini. Omar, 14 ans, serait présenté dans les médias comme le plus petit terroriste du monde. Mais c'est en fait trop tard, khlas, finito. Malgré son pèlerinage à la Mecque avec papa, il continue d'en pincer pour la peau satinée des filles. Il ne trouve aucune vertu médicale à l'urine de dromadaire qui se vend à Médine. Et il n'y a rien à faire, le Coran est trop carré et il aime la poésie. Omar, 14 ans, a dû lire un livre de trop.
Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom.
T comme
Soy Italien,
tapis volant.
دواء لها وما في دواء لها فصايا الصاير صاير شعلتنا
علي راحت علي حسنتي على قاتلني قاتلني.
Alors c'est quoi tous ces sons, Omar Youssef Souleymane, qui nous arrivent comme ça par tapis volant ?
D'abord le son de Paul Éluard, c'est l'homme qui m'a donné la force, qui m'inspirait, qui m'a sauvé vraiment dans une époque de ma vie. Paul Éluard, c'est pas seulement le poète pour moi, mais c'est l'homme de la liberté. Lequel je cherchais depuis, qui m'a donné la force, qui m'inspirait, qui m'a sauvé vraiment dans une époque de ma vie. Paul Éluard, c'est pas seulement le poète pour moi, mais c'est l'homme de la liberté, lequel je cherchais depuis toujours. Après, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de venir dans ce pays, la France. Paul Éluard, c'est l'homme qu'on peut le conduire si nous voulons vraiment être des vrais rebelles.
Le rebelle, il aime bien la gazouze aussi, hein?
Oui, grave, parce que quand j'étais à Damas, il y avait des jus spéciales. C'est pas vraiment le gazouze qu'on le connaît en France. Les jus, s'appellent tamarindi ou erso. Bref, c'est un jus vraiment syrien, traditionnel.
Ah, ça, c'est la première fois que je vois sourire, là, en
oui,
disant ça. Vous avez l'image des vendeurs ambulants de gazouze.
Oui, parce que déjà, leur bruit, leur appel aux gens pour acheter ce gazouze, c'est quelque chose, c'est une partie de mon âme. Quand je pense à cette image, comme si c'était une voix d'une civilisation très très loin.
Alors, il faut raconter qu'après l'Arabie Saoudite, vous allez retrouver votre Syrie natale à l'adolescence. Qu'est-ce que vous voyez dans cette Syrie où vous voyagez seul d'ailleurs ?
C'était difficile parce que j'ai passé mon adolescence hors de la Syrie. Je peux dire que c'était vraiment mon premier exil dans mon propre pays.
Et puis vous allez devenir journaliste. Et puis arrive la révolution de 2011. Et là, vous participez aux manifestations pacifiques à Damas et puis à Homs. Et qu'est-ce qui se passe pour vous là ?
Ce matin, vous voyez, j'ai passé à peu près 12 heures dans le train, entre le RER et le métro, parce que j'habite loin d'ici. Et c'est exactement le temps qu'on le passe entre Homs et Damas. Ce qui se passe, c'était un rêve, un très grand rêve de dire ce mot « liberté » à Damas, sur un régime dictateur. Aucune personne a dit ce mot pendant plus que 50 ans depuis l'année 63, quand le parti Baath est arrivé au pouvoir. Mais en fait, c'était un suicide de sortir dans une manifestation en Syrie. On était vraiment comme des gens aveugles, mais aveugles dans un côté positif, car il y avait le printemps arabe qui nous appelait. C'était la première fois qu'on sentait qu'on existe comme des êtres humains dans notre pays.
Vous allez être recherché, évidemment, par les services secrets syriens. Vous retrouvez dans un camp de réfugiés en Jordanie et devenir forcément suspect aux yeux des autorités jordaniennes. Et puis vous allez réussir à quitter ce camp et rejoindre la France, non pas en tapis volant, mais en tout cas la France va vous accorder l'asile politique en 2012. Mmh. Comment votre famille, très croyante, salafiste, réagit à votre retournement, au fait que vous deveniez athée?
Mon père était vraiment violent contre moi, mes oncles, toute la famille de mon père. Pour eux, j'étais plus leur fils. D'être un athée dans le mandat, mais annoncer ça, ça veut dire un voleur, ça veut dire quelqu'un pervers. Après, ma mère, au début, c'était vraiment un échoc pour elle, mais finalement, elle m'acceptait comme je suis. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'amis. Je n'arrivais plus de revenir à la ville où j'ai grandi. Et en plus, j'écrivais à la base des articles contre la religion dans un site internet. Et j'ai reçu beaucoup de menaces. Mais j'ai écrit encore sur un homme, un faux nom, on peut dire. Voilà, c'est ça les réactions.
Le visage de l'exil. Mon visage disparaît dans le miroir. À Homs, un médecin du réseau est en train de se charger de ma transformation. Il a déjà masqué le grain de beauté sur ma joue, changé la couleur de ma peau, celle de mes yeux, ma coupe de cheveux. À mesure qu'on me couvre de maquillage, qu'on me tond le crâne, que des lentilles vertes donnent à mon regard un reflet étranger, je découvre une nouvelle apparence qui me plaît davantage. Je me trouve beau. Je souhaite, l'espace d'un instant, être né avec ce visage. Qu'il soit vraiment le mien et non pas celui d'un personnage créé pour passer des postes de contrôle entre Homs et Damas.
Extrait en sol majeur du petit terroriste sur RFI. Quelle est votre identité aujourd'hui, Omar Youssef Souleymane ?
Un Français avec une mémoire syrienne. Pourquoi en français? Parce que je trouve mon avenir ici en France, je ne le trouve plus en Syrie, car la Syrie, pour moi, n'existe plus. Pourquoi avec une mémoire, c'est-à-dire pas en français-français, en français avec une mémoire? Parce qu'on ne peut pas sortir de notre propre mémoire. Et la France m'a permis de regarder ou de voir ma mémoire plus profondément, vous voyez. Parce que quand on est éloigné de notre propre culture, parfois on le voit plus clairement.
Vous êtes un journaliste et un Syrien de la diaspora aujourd'hui, qui sans doute regarde les chiffres. Vous avez un ordinateur devant vous et vous n'arrêtez pas de tapoter ou d'écrire en même temps qu'on se parle. Donc vous regardez les chiffres, on va en donner un, plus de 500 000 morts concernant la Syrie. D'ailleurs, les Nations Unies déclarent ne plus compter depuis 2 ans les victimes. Des dizaines de milliers de disparus, viols et tortures institutionnalisés dans les geôles du régime. Est-ce que la question de la transition démocratique, avec à sa tête un Bachar el-Assad, c'est la question que vous vous posez, vous?
D'abord, pour l'ordinateur, Yasmine, moi, je porte toujours mon sac avec toutes mes affaires là-dedans, parce que j'ai toujours ce sentiment que peut-être je ne reviens plus à la maison. Pour la situation en Syrie, aujourd'hui, c'est vrai que, comme vous avez dit, on a plus que 500 000 personnes qui sont tuées, on a presque 7 millions Syriens, sont soit des réfugiés hors de la Syrie, soit ils sont déplacés à l'intérieur. Et on a presque 70% de la Syrie est bombardée. Alors, pour l'avenir, je pense que la guerre en Syrie va arrêter. Pourquoi? Parce que le régime il est en train de faire, malheureusement, tout ce qu'il veut faire. Il est en train de prendre le quartier Ghouta. Bien sûr, en fait, le régime n'existe plus. Hein. Quand je dis le régime, je veux dire l'Iran et la Russie. Mais entre les pays qui font cette guerre horrible en Syrie, il y aura un accord bientôt. Sauf qu'il y aura un autre problème, parce que cet accord, ça ne sera pas pour les Syriens, c'est seulement pour arrêter cette guerre.
Donc Bachar el-Assad ou pas Bachar el-Assad, ce n'est pas le problème?
Non, ce n'est pas le problème, parce qu'aujourd'hui, la Syrie, c'est un pays occupé pour de plusieurs pays. Je suis contre Bachar el-Assad 1000% depuis toujours jusqu'à la fin de ma vie. Et aussi, je suis contre la Turquie qui occupe la Syrie aujourd'hui.
Alors, j'aimerais connaître votre sentiment de Français qui a une mémoire syrienne, comme vous vous définissez aujourd'hui, sur la personnalité de Kabu, l'un des grands dessinateurs de presse qui a été assassiné lors de la conférence de rédaction qu'il tenait à Charlie Hebdo en 2015, on s'en souvient tous. Kabu, qui dessinait autant Jésus que le prophète et qui revendiquait le droit de pouvoir rire de tout.
J'attaque certaines personnes, j'accepte d'être attaqué, mais ce qu'on ne peut pas accepter avec tous mes copains de Charlie et du Canard, c'est d'avoir des fatwas de temps en temps pour un dessin, être condamné comme Charles, qui est condamné à mort depuis 2 ans. Et c'est inadmissible, ça, pour des dessins. C'est parce qu'en France, on admet la caricature, vous voyez, mais il y a des pays qui ne reconnaissent pas la caricature, qui ne reconnaissent même pas le droit à représenter Mahomet. C'est parce que certains pays ne reconnaissent pas le rire avec des dessins. C'est ça qui a changé beaucoup en 20 ans, c'est que toutes les religions sont devenues plus radicales, notamment la religion musulmane, c'est vrai. Au moins, la religion catholique ne poursuit pas aussi souvent que la religion musulmane, parce qu'on a eu des procès avec plusieurs associations musulmanes, mais on n'a pas été condamné parce que les tribunaux français ont reconnu le droit à la caricature, justement. Pour moi, une religion, c'est une idéologie comme une autre. On a le droit de critiquer une religion.
Kabu sur RFI, Kabu qui n'est plus, assassiné pour avoir dessiné le prophète Mahomet, se tenant la tête dans les mains en disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». Omar Youssef Souleyman, est-ce que vous pensez que Kabu avait le droit de dessiner le prophète Mahomet?
Ce qu'il a dit, Kabu, là, c'est un des raisons. Pourquoi, finalement, personnellement, j'ai fui de cet enfer qui s'appelle le monde arabe? Parce qu'il n'y a aucune liberté pour exprimer notre propre sentiment ou nos idées. Bien sûr, il a le droit de dessiner tout le monde, et comme il veut déjà, cet artiste ou les autres de Charlie Hebdo, ils ont dessiné Hollande, ils ont dessiné Sarko, ils ont dessiné des
Mais là, on
Juifs.
Parle de la religion. Vous n'avez jamais la été religion, okay. heurté vous-même, vous, l'ancien musulman, l'ancien croyant, lorsqu'il dessinait le prophète Mahomet?
D'abord, moi, je me demande pourquoi on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Est-ce qu'il y a encore un texte sacré à ce point-là dans le monde entier.
Qui vous a aidé à penser de cette manière, vous qui avez été endoctriné dans la pensée salafiste pendant vos jeunes années? Qui vous a sorti de cet endoctrinement?
C'est le Coran même, d'abord.
Et ensuite?
Ensuite, c'est Taha Hussein. Taha Hussein, c'est un écrivain égyptien. Il avait des doutes contre la vieille poésie arabe avant l'islam. Et il a dit dans un livre qui s'appelle La poésie avant l'islam, il a dit, c'est possible que toute la poésie avant l'islam n'existe pas. Il a écrit après. Donc il a suivi une façon de réfléchir qui l'a inspiré de Descartes. Et en fait, vraiment, Taha Hussein, il m'a donné cette idée. On a le droit de douter. Il n'y a rien qui est sacré dans l'homme. Et en fait, dans ce livre, Taha Hussein, il a passé des messages. Il a dit, peut-être le Coran, il écrit après l'époque de Mohammed, pas pendant. Et ça, vraiment, c'était des clés qui m'aidaient beaucoup de sortir de cette idéologie.
Notre invité en sol majeur, Omar Youssef Souleyman, réfugié syrien qui rêve d'une vie de citoyen lambda. Donc je vous emmène à Montmartre.
Allez-y.
Venez, je vous aide. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop! Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pierres au gourmand. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients.
Allez, allez, goûtez vos melons.
Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi, je vous laisse ici. Au revoir.
S comme sous les ponts de Paris.
Ah, Omar, vous m'avez dit j'aimerais bien avoir la voix d'Amélie, le film Amélie. Alors je voyais pas ce que c'était. Et Amélie Poulain, donc.
Car c'était un des premiers films français que j'ai vu en France. C'est vraiment la fille pour quelqu'un, pour moi, que quelqu'un n'est pas français à la base, c'est la France. L'amour français, vous voyez, les endroits traditionnels, les cafés, le parole, la vie quotidienne, Montmartre, etc. Donc ce film, je l'ai vu plusieurs fois et m'a touché beaucoup, c'est pour ça que j'ai commandé. Et même en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas le nom de l'artiste, je connais quoi, Amélie.
Audrey Tautou appréciera. Mais pour vous, Paris, quand vous y débarquez pour la première fois, c'est pas forcément Montmartre, les accordéons, les terrasses de café avec les jolies filles, c'est surtout des ponts et des administrations.
Grave, parce qu'il y a toujours l'image traditionnelle.
Vous dites grave, hein, ça y est. Hein.
Bah, je suis en train d'être parisien, quoi, c'est normal. Après, oui, bah, d'abord, il y a l'image cliché, qu'on pense sur le pays. Il y a aussi la vérité. Je n'ai jamais imaginé qu'il y a cette vie différente à Paris, avant mon arrivée en France. C'était le pays de la poésie, de la musique partout, les statues de Paul-Éluard et d'Aragon, et le théâtre, le cinéma, et je n'ai jamais imaginé qu'il y a par exemple RER, ou métro assez violent, ou les babies administratifs. Et en plus, je n'ai jamais imaginé que je vais souffrir beaucoup pendant étudier la langue française, parce que quand je suis arrivé, je ne parlais pas cette langue. Mais aujourd'hui, je trouve la
belle... Félicitations hein, quand même.
Bah, merci. Après, c'est les films, Amélie et les autres, Club Belle la Vie, comme je dis, la série, oui. La récit.
Ouais. Mais oui, le mot voilà. Liberté, aujourd'hui, ce n'est plus un poème de Paul-Éluard dans votre vie, Omar Youssef Souleyman. C'est un mot que vous expérimentez dans votre vie de... Alors, réfugié, je ne sais pas si vous l'êtes. Quel est votre statut aujourd'hui en France?
Bah, je suis réfugié politique, j'ai une carte d'identité, comme tous les réfugiés politiques.
Est-ce que vous vous sentez aussi libre que vous le souhaitiez ou que vous le fantasmiez quand vous étiez en Syrie?
Aujourd'hui, oui, je sens que je suis libre parce que ce pays est devenu une partie de moi. Je suis engagé par rapport à la situation politique en France. J'ai mes propres idées dans la société française. En plus, j'écris tout ce que je veux. Je vis comme je veux et je lis tout ce que je veux. Personne, aucune policier qui m'a dérangé. C'est pour ça que je trouve ma propre liberté, sinon je pars. Quoi.
Et vous n'êtes pas stigmatisé parce que vous vous appelez Omar Youssef Souleyman?
Ah, parce que j'ai un prénom arabe,
oui,
vous voulez dire?
Oui.
Parfois, en fait, si, par rapport à soit mon prénom, soit par rapport à mon visage, parce que j'ai un visage arabe. Ça existe, et aussi, c'est une partie de ma propre révolution. En France, quand on trouve ça, on trouve le racisme, il faut l'accepter. et il faut vraiment lutter contre lui tout le temps.
Alors vous écrivez des chroniques aujourd'hui dans le journal Le Point.
Oui, j'ai de la chance en fait parce que c'est...
Vous écrivez en français ?
Oui, ça, d'abord en fait j'ai commencé d'écrire en français par rapport au petit terroriste parce que c'est mon éditrice, Louise Danou, qui m'a donné ce courage. Elle avait l'impression que je peux écrire en français, je peux créer un style en français. Et cette année j'ai rencontré Clément Petro et Thomas Meller du Point, la magazine. Moi j'avais envie d'écrire des articles en français, c'est eux qui m'ont donné, j'ai de la chance quand même, qui m'ont donné cette occasion. Après,
vous savez, vous êtes la Libye pour la bonne conscience française aujourd'hui, vous êtes syrien,
oui,
vous en êtes conscient ou pas?
C'est rien de tout quand même, mais pour les chroniques, voilà.
Mais juste pour donner un tout petit peu idée de la tonalité de vos chroniques,
oui.
Mar-Youssef Souleyman, je donnerai juste un titre d'une de ces chroniques intitulée « Pour comprendre les dictateurs arabes, il faut connaître leur dieu ».
Bien sûr, tous les dictateurs dans le monde entier, pendant toute l'histoire, elle était inspirée par rapport les dieux. Même les dictateurs, les rois européens par exemple, est-ce qu'il existait à l'époque de pouvoir de l'Église sans les chefs de l'Église, sans la religion? C'est impossible. Et dans le monde arabe, aujourd'hui, on vit presque la même situation. Ils sont inspirés, c'est-à-dire il y a la complicité entre eux et les imams musulmans.
Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des lettres de menaces avec ce genre de chronique?
Des lettres de menaces, des commentaires de menaces, des insultes tout le temps, mais moi je trouve que c'est normal. Parce que la haine et les menaces sont une partie de la vie quand même.
De la langue française, je ne connais que six mots. Bonjour, bonsoir, au revoir, merci, pardon et liberté. Ce dernier mot est le titre d'un poème de Paul Éluard. Lors de mes années d'adolescence en Arabie Saoudite, je le lisais en secret, apprenant par cœur sa traduction en arabe. Célèbre dans les pays arabes à chaque révolution, voilà que ce poème prend aujourd'hui une teinte personnelle. D'un élan, j'appelle l'ambassade de France et demande un rendez-vous en urgence. Deux heures plus tard, un colonel, dont étrangement j'ai oublié le nom, vient me voir à l'hôtel, m'interroge, prend une photo et s'en va, me laissant un peu étourdi. J'ai franchi le pas. Je deviens un étranger. La nation d'Aragon et d'Éluard sera la mienne quelque temps, et lorsque le régime de Bachar al-Assad sera renversé, je reviendrai chez moi.
Est-ce que vous êtes un oiseau sur la branche alors, Omar Youssef Souleyman? Est-ce que vous allez repartir?
Peut-être pas un oiseau, parce que je pense que je suis plus dur d'un oiseau. Pas plus dur, peut-être plus... parce que l'oiseau, c'est fragile, quoi, vous voyez. J'étais un vol qui est parti de son propre pays, qui l'a fui cette guerre, et je n'ai jamais imaginé que je vais rester à l'extérieur de la Syrie. Et je pense que c'est difficile quand on n'arrive pas à décider notre avenir. C'est ça le plus dur pour les réfugiés.
Donc vous n'avez pas de chez vous aujourd'hui sur la Terre?
Non. Chez moi aujourd'hui, ici j'ai une nouvelle vie en France. Mais il y a toujours une partie de moi qui est perdue. Et vous voyez, il y a toujours des points positifs. Par exemple, si ce côté n'était pas perdu, je ne serais pas devant vous ce moment-là, par exemple. Si je n'étais pas réfugié ou je n'avais pas cette mémoire.
Non, c'est le fait que vous ayez écrit sur ce trajet. C'est-à-dire que vous avez perdu, vous avez tout perdu, mais vous en avez fait quelque chose.
Exactement.
C'est ce que vous
Il y a toujours des choses qui rattrapent ce qu'on perd.
Il y a un proverbe qui dit ça?
Peut-être.
En arabe?
Non. Il n'y a pas d'expression non, pour dire ça, mais je pense que c'est vrai.
En sol majeur. @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Omar Youssef Souleyman, un camp de réfugiés jordaniens, le poème Liberté d'Éluard, des vendeurs de gazouz syriens, et puis une autobiographie poétique, on va la présenter comme ça, Le petit terroriste, paru chez Flammarion. Je crois, Omar, que c'est l'heure de votre leçon de français avec Monsieur Brel. Pourquoi ne me quitte pas?
Parce que c'est une des premières expressions que j'ai apprises de la langue française. Je dis tout le temps, et en fait la chanson de Jacques Brel, il la chante très très bien et doucement pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue, c'est un super exercice. Après, je disais tout le temps, j'utilisais tout le temps cette expression « ne me quitte pas » pour tout le monde, même pour ma prof française, parce que je ne fais pas la différence entre « ne me quitte pas » et « ne quitte pas » au téléphone, etc. Donc les femmes rient et les hommes me regardaient bizarrement parce qu'ils pensaient que je suis en train de les séduire.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en sol majeur. À la semaine prochaine.
Oh, Nidiara.